France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Barthélémy Gaillard, Inès Bouffartig, Sébastien et Loïc Antoine, réalisé par Margot Page et à la technique ce matin, c'est Éric Perruchot-Triboulet. Du harcèlement de rue au féminicide, les femmes restent surexposées à la violence, quelle que soit leur nationalité, leur âge ou leur niveau social. Elles demandent aux États d'en faire une priorité de politique publique. Nous avons parlé lundi du Mexique où la présidente Claudia Sheinbaum est en première ligne, mardi de l'Allemagne où le sujet commence à être fédérateur, hier de la Corée du Sud, pas encore sortie du déni. Aujourd'hui, au Canada, la double peine des femmes autochtones.
Quand tu n'es pas bien entouré, les prédateurs en profitent. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Cherise et à Hillary Wilson. Elles ont été victimes de cette société et de cette idée préconçue que les femmes autochtones ne sont que des ordures.
On est en train de regarder un film d'horreur dans lequel ce sont les femmes autochtones qui sont les plus vulnérables et plus touchées par cette problématique-là. Alors, comme société qui est diversifiée, comment pourrions-nous améliorer le présent et l'avenir de celles-ci? On parle de protection, de justice, de sécurité.
La Commission de vérité et de réconciliation et l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ont tracé la voie que doivent suivre tous les Canadiens pour parvenir à la réconciliation. Et on travaille à donner suite aux enjeux importants qui ont été soulevés dans les appels à l'action et les appels à la justice.
À l'échelle mondiale des communautés autochtones, il y a tous ces peuples qui ont disparu, dont les noms ne sont plus que des inscriptions froides couchées sur les pages des dictionnaires. À l'échelle des peuples, il y a ces femmes qui ont disparu et disparaissent encore, le long notamment de l'autoroute des larmes, comme l'appellent les riverains de ce ruban d'asphalte de 700 km qui ondule doucement dans les collines de Colombie-Britannique, dans l'extrême ouest canadien. Plusieurs dizaines de femmes autochtones qui la parcoururent un jour depuis 1969 ne furent jamais revues, des morts qui disparaissent, des enquêteurs qui ne viennent jamais et un deuil qui ne s'écrit pas. Dans le prolongement de la commission Vérité et Réconciliation consacrée aux pensionnats autochtones, le Canada avait lancé en 2016 l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées. Son rapport final, publié 3 ans plus tard, appelait à des changements en profondeur sur les plans juridiques et social. L'État a été critiqué pour ses manquements, difficultés d'accès aux services d'aide, barrières linguistiques et discrimination. Pour des femmes qui sont déjà plus vulnérables de par le taux de chômage très marqué dans les communautés, les nombreuses mères célibataires, le risque de tomber enceinte avant 20 ans risque 4 fois plus élevé que pour les Canadiennes non autochtones. Alors qu'a changé cette grande enquête de 2016 au niveau fédéral et dans les différents territoires et provinces? Nous en parlons avec nos invités. Alors il est d'abord 5h04 du matin à Montréal, où vous êtes, Mylène Jacoux. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'école de criminologie de l'Université de Montréal. Vous travaillez en particulier sur la justice réparatrice qui, au Canada, s'inspire notamment de pratiques autochtones de justice. Et nous sommes avec Adeline Vasquez-Para. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes historienne, maîtresse de conférences en civilisation américaine à l'Université Lyon 2 au laboratoire Triangle. Adeline Vasquez-Para, les femmes autochtones au Canada, elles représentent 4% de la population féminine totale. Mais est-ce qu'entre elles et les femmes canadiennes non autochtones, est-ce qu'il y a des luttes communes? Est-ce qu'il y a des représentations communes? Une vision commune de la lutte contre les violences faites aux femmes?
Alors, le féminisme canadien est historiquement complexe, hein, notamment en raison de la fracture politique qui s'affirme dans les années 60, au moment où émerge un féminisme qui est spécifiquement québécois. Mais je pense que cette crise des violences faites aux femmes autochtones a vraiment contribué à créer un terrain de convergence où s'est imposée la nécessité de placer davantage les revendications autochtones au cœur, si vous voulez, d'un féminisme un peu plus intersectionnel. Et ce qu'on peut dire de ce féminisme intersectionnel, c'est que c'est un terrain qui demeure quand même fragile parce que cette convergence survient après des années, voire des siècles de domination des femmes autochtones sur leurs problèmes et leurs enjeux qui leur sont propres. Donc il y a toujours cette crainte que leur cause soit instrumentalisée ou fondue dans des luttes qui les concernent, qui les concernent évidemment, mais qui ne les concernent pas forcément dans leurs problématiques propres. J'observe aussi l'apparition d'un langage commun entre différents courants féministes, notamment au Québec, où le féminisme traditionnellement lié à la question de la souveraineté se relie un peu plus aujourd'hui au féminisme autochtone et au mouvement plus récent de féminisme décolonial et écoféministe à travers un langage de la colonialité. Et on voit ça notamment chez quelqu'un comme Dali Giroux, hein, qui combine un petit peu tous ces enjeux, et notamment à travers la question écoféministe, parce qu'il faut rappeler qu'un grand nombre de violences qui sont perpétrées à l'encontre des femmes autochtones se produisent dans des contextes lié au capitalisme extractiviste, c'est-à-dire des réserves qui sont à proximité de chantiers de forage, d'extraction de minerais, et qui favorisent la mobilité de travailleurs qui sont majoritairement masculins et qui alimentent toute une économie qui est fondée sur la masculinité toxique, hein, avec par exemple des casinos, des bars à striptease, etc., et où les femmes autochtones sont prises un petit peu dans cette économie avec de l'exploitation sexuelle, du proxénétisme, du trafic d'êtres humains. Donc, on se situe un petit peu dans un héritage historique, hein, où l'exploitation du territoire contribue à la violence en fait envers les femmes autochtones. Donc, il y a un même diagnostic, ça c'est clair, mais il y a aussi un langage commun, hein, vis-à-vis de ces questions.
La politologue que vous avez citée, Dali Giroux, est l'autrice d'un pamphlet L'œil du maître, paru en 2021, et vous expliquez, Adine Vasquez-Parra, dans vos travaux, combien d'abord en 69, le Front de libération des femmes, quand il a été créé, reliait explicitement émancipation féminine et indépendance du Québec en critiquant l'impérialisme états-unien, le capitalisme, en refusant par ailleurs toute influence linguistique ou idéologique du féminisme anglophone d'où qu'il vienne, et qu'ensuite ces luttes se sont éloignées l'une de l'autre, notamment parce que le parti québécois qui soutenait la cause indépendantiste était trop conservateur pour les féministes au Québec. Donc il y a eu dans le passé divergence, convergence, redivergence de lutte entre les femmes, les féministes canadiennes, les féministes autochtones et non autochtones. D'ailleurs, Mylène Jacou, à ce sujet, est-ce que vous voulez nous en dire un mot? Hors Québec, est-ce que les féministes blanches, entre guillemets, au Canada, ont longtemps été perçues par les courants féministes qui défendaient les autochtones comme essayant d'imposer un cadre de pensée qui ne correspondait pas au leur?
Oui, effectivement, c'est pour ça que je veux renchérir par rapport à ce que Adeline mentionne. Effectivement, il y a des points de convergence, mais il y a aussi un certain nombre de tensions et de divergences, et notamment, pour ajouter un petit peu et compléter ce qui a été dit, je pense que le principal point d'achoppement reste quand même le rapport au système pénal, au système de justice et aux meilleures réponses possibles. Et là, je pense, de toute façon, le féminisme est traversé par des tensions par rapport à ça. Il y a un féminisme qui est abolitionniste aussi, mais je dirais que c'est peut-être encore beaucoup plus marqué parmi les femmes autochtones. En tout cas, moi, sur le terrain, je constate très souvent que les femmes autochtones dans les communautés ne se retrouvent pas nécessairement dans les mouvements féministes, en disant que c'est des mouvements qui tentent un peu à séparer les hommes des femmes dans la prise en charge et la façon de répondre, et notamment, justement, moi qui travaille un petit peu sur les enjeux de justice réparatrice et de justice transformatrice, c'est vraiment là qu'il y a des tensions. D'ailleurs, moi, souvent, on va me dire dans les communautés autochtones que les théories féministes, ce sont des théories qui sont colonialistes, des théories de femmes blanches qui ne collent pas aux réalités autochtones, qui voient dans la réponse à apporter, par exemple, aux violences faites aux femmes, davantage une réponse qui va être holistique et qui va prendre en charge les violences aussi subies par les hommes au cours du processus de colonisation. Donc, la réponse n'est pas envisagée de la même façon. Et je pense que là, c'est vraiment un point de tension sur la réponse plus holistique et plus inclusive par rapport aux hommes autochtones qui sont, où la violence, elle n'est pas analysée de la même façon. La violence, elle va être beaucoup rattachée aux séquelles du colonialisme, tandis que dans les mouvements féministes, on va davantage inscrire ces violences-là dans le patriarcat. Et c'est là, je crois, le point où il y a des tensions et une non-convergence.
Donc des femmes autochtones qui parlent davantage des traumas, des séquelles subies, y compris par les hommes qui, si je suis bien, pourraient expliquer aussi une violence particulière, des violences qui d'ailleurs existent des deux côtés dans le couple, dans les familles autochtones. C'est l'objet d'un livre que vous venez de conclure sur les dynamiques de violence des adultes autochtones. Il n'est pas encore paru, donc des violences bidirectionnelles, comme on dirait. Est-ce qu'il y a, pour en parler de tout ça, parce que c'est riche, c'est passionnant, Adeline Vasquez-Parra, est-ce que les femmes autochtones et non autochtones au Canada ont souvent, ne serait-ce que l'occasion de se croiser dans des manifestations, quand les mouvements féministes autochtones comme Idle No More ou la Native Women's Association of Canada manifestent, est-ce que elles sont rejointes par des non autochtones? Est-ce qu'il y a des ponts?
Tout à fait, il y a des ponts. Et puis vous parliez donc de ce mouvement Idle No More qui a vraiment permis aussi de faire émerger des grandes voix de femmes autochtones et féministes, parce que c'est aussi ça le problème, je pense. L'enjeu, il est aussi de redonner une voix et de redonner un espace au féminisme autochtone qui disparaît souvent finalement derrière des enjeux plus larges.
Alors, Adeline Vasquez-Parra, un rapport gouvernemental en 2021 estimait que les femmes autochtones sont 12 fois plus exposées au risque d'être tuées sur un risque 12 fois plus élevé que pour les femmes non autochtones, 3 à 5 fois plus exposées aux violences sexistes et sexuelles. Comment expliquer ce fossé qui agit peut-être autant que la barrière de la langue quand il s'agit de faire discuter entre elles des féministes autochtones avec d'autres qui ne le sont pas? C'est-à-dire que leur réalité, si on s'en tient très froidement à des statistiques, ne sont pas les mêmes.
Tout à fait. Et il faut aussi préciser que leurs réalités territoriales ne sont pas les mêmes. Parce que beaucoup de ces femmes, en fait, ces femmes autochtones vivent dans des réserves et elles sont nombreuses à fuir ces réserves. Et elles se retrouvent, en fait, dans des situations de grande vulnérabilité sociale au moment où elles fuient. C'est ce qu'on a vu avec plusieurs affaires de disparition inquiétante, au moment où, en fait, ces femmes, n'ayant pas de moyens de transport personnel et leur zone résidentielle n'étant pas couverte par les transports publics, faisaient du stop sur une autoroute, notamment l'autoroute des larmes, et disparaissaient. Et en fait, ces cas de disparition qui ont pourtant été signalés par leurs familles n'ont pas ou n'ont peu fait l'objet d'enquêtes policières. En fait, elles n'ont pas, ces plaintes de famille n'ont pas été prises au sérieux par les services policiers et sociaux. Donc, vous avez à cela un autre problème qui s'ajoute, qui est le problème des villes, où de nombreuses femmes autochtones se retrouvent en situation d'itinérance, notamment à Vancouver, dans le Downtown East Side. C'est là où il y a eu la fameuse affaire Picton.
Qu'est-ce que c'est, la fameuse affaire Picton, pardon?
Alors, en fait, c'est une affaire qui a lieu dans les années 2000, où on va retrouver un serial killer qui va tuer des femmes dans ce quartier qui est très défavorisé, qui est un quartier très défavorisé de Vancouver, où des femmes travailleuses du sexe autochtones sont en fait kidnappées par ce tueur et assassinées. Et il va avouer le meurtre de plus d'une quarantaine de femmes, mais il va être accusé du meurtre de 6 femmes en particulier en 2007. Si vous voulez, cette affaire a contribué quand même à faire toute la lumière sur le problème des femmes autochtones également dans les villes. C'est-à-dire que quand elles se retrouvent en situation d'itinérance et quand elles se retrouvent en situation de grande vulnérabilité suite à leur fuite des réserves.
C'est par exemple ce qu'explique une femme autochtone rencontrée par Radio-Canada qui s'appelle Sheila North Wilson et qui explique ce qui lui est arrivé à son arrivée à Winnipeg, une ville proche des États-Unis, dans le sud du Canada. C'est la capitale de la province canadienne du Manitoba.
I heard a car coming this way.
Une voiture est arrivée par ici. Il y avait des hommes à l'intérieur. Ils se sont arrêtés. Je les ai entendus dire que j'étais seule. Je savais qu'ils s'en venaient, alors j'ai couru par ici. Puis j'ai vu cette structure et je me suis accroupie derrière. Un homme est sorti de l'auto. Il se demandait où j'étais passée. J'étais complètement terrifiée. Je ne savais pas pourquoi ils s'intéressaient à moi, mais ils avaient de mauvaises intentions. Je suis restée cachée jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. J'ai compris que je n'étais pas la bienvenue ici, que je n'étais pas en sécurité et que je devais trouver des façons de survivre.
Mylène Jacou, est-ce qu'elles sont nombreuses les femmes autochtones qui fuient les réserves où des violences intracommunautaires sont fréquentes, où elles n'ont pas accès aux services sociaux, où souvent les auteurs ne sont pas dénoncés car la communauté préfère restaurer l'harmonie en interne par exemple? Est-ce qu'elles sont nombreuses à quitter les réserves, on parle encore de réserves au Canada, pour aller dans les villes, et est-ce qu'elles y sont plus protégées?
Oui, bah écoutez, je pense aussi qu'il faut pas uniquement voir que ces formes de migration dans les centres urbains soient liées uniquement à la violence. Hein. Il y a de toute façon un mouvement qui se manifeste comme ça pour l'ensemble des autochtones. Il y a un mouvement de migration urbaine qui est très important. Mais oui, ça reste important. Moi, j'ai déjà fait une étude sur les femmes autochtones marginalisées à Montréal. Et puis, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que la violence, elle précède l'arrivée en milieu urbain. Donc, il faut bien reconnaître aussi que c'est une violence qui est intra-nation, c'est-à-dire que dans les communautés autochtones, le niveau de violence est extrêmement important, la violence familiale, mais c'est vrai qu'arriver dans un milieu urbain, maintenant, il y a quand même des grandes améliorations. Je peux vous dire quand même qu'à Montréal, et dans d'autres villes du Québec, puisque je connais mieux le Québec que les autres provinces, les centres urbains se sont mobilisés. Il y a quand même beaucoup plus de ressources qu'avant. Mais le problème, c'est qu'effectivement, dans les communautés, il y a un manque flagrant de ressources. Donc, les femmes sont amenées à fuir ces milieux-là. J'aimerais aussi apporter peut-être une petite nuance parce que on a peut-être eu tendance à ne voir que la violence envers les femmes autochtones, mais par exemple sur les taux d'homicide, il n'en reste pas moins que le taux d'homicide est beaucoup plus élevé chez les hommes autochtones que chez les femmes autochtones. Donc c'est quand même une violence qui est généralisée, qui touche pour certaines formes de violence plus les femmes que les hommes, mais aussi il y a un besoin de ressources aussi pour les hommes autochtones. Mais définitivement, les femmes autochtones qui se retrouvent en ville voient parfois leur vulnérabilité amplifiée parce que les services sont peu adaptés. Il y a eu au Québec des scandales liées aux violences policières, hein, donc elles ne se sentent pas protégées par la police. Il y a une commission d'enquête qui a démarré dans une ville au Québec, Val-d'Or pour ne pas la nommer, parce qu'il y a eu des policiers qui ont, et c'est pas exclusif au Québec, il y a eu d'autres villes où ça s'est passé de cette façon-là, où il y a eu des violences physiques et sexuelles exercées par la police. Donc vous comprenez, quand on est rendu à ne pas se sentir protégé par des institutions publiques, c'est assez grave.
Donc mal protégées quand elles sont, quand elles vivent dans leur communauté avec, vous le rappeliez à juste titre, les hommes des communautés autochtones qui sont également très vulnérables face au réseau de trafic, par exemple, qui se développe autour des réserves, mais les femmes particulièrement, puisque, comme rappelait Adeline Vasquez-Para, ces réserves aujourd'hui sont situées à proximité très souvent de chantiers, de bars, de casinos, des milieux socio-professionnels qui comptent beaucoup de travailleurs temporaires qui sont en majorité des hommes, donc en effet une violence qui concerne tout le monde, en particulier les femmes. Pour celles qui vont en ville, vous avez étudié en particulier, Mylène Jacou, ce foyer d'hébergement pour femmes autochtones à Montréal. Est-ce qu'il est toujours complet? Et surtout, pourquoi faites-vous partie de ceux qui disent qu'on ne devrait pas développer ce genre de centre d'hébergement?
Bon, écoutez, là, je le dis quand même un peu sous forme de provocation,
bien sûr,
parce qu'évidemment, on a besoin de mettre en place des services de protection pour toutes les personnes qui subissent des violences. Mais moi, je le dis souvent, en fait, lorsqu'il s'agit d'une violence qui n'est pas bidirectionnelle, donc on parle souvent d'ailleurs en contexte autochtone de violence, d'une dynamique de violence dans les familles et dans le couple, mais moi, de plus en plus, moi qui accompagne certaines communautés à développer leurs propres mécanismes et leurs propres ressources pour prendre en charge la violence, on va le dire très souvent, en fait, les femmes, ce n'est pas à elles de sortir de la communauté, mais on devrait mettre en place, et en ça, les communautés, certaines d'entre elles sont privilégiées parce qu'elles disposent d'un territoire naturel qui pourrait être très ressourçant et protégeant. Donc, on parle de plus en plus de pouvoir sortir les auteurs de violences des communautés de manière à permettre aux femmes de rester dans les communautés et à ce moment-là de mettre en place des pavillons de ressourcement, en tout cas des services qui soient en dehors des communautés pour la personne qui agresse. Donc moi je le dis un peu sous forme de provocation, il faudrait davantage sortir la personne qui est responsable de la violence plutôt que de laisser encore les victimes devoir se débrouiller et sortir de leur communauté.
Alors, sur la question, vous la citiez tout à l'heure, de l'autoroute, ce qu'on appelle l'autoroute des larmes, Adeline Vasquez-Para, en Colombie-Britannique, cette longue route, autoroute de 700 km au bord de laquelle plusieurs femmes autochtones et non autochtones ont disparu, mais plusieurs femmes autochtones. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir de chiffres précis? Cette question me taraude notamment parce que une commission d'enquête a été mise en place qui a duré plusieurs années sur les disparitions des femmes et les meurtres, les assassinats des femmes et des filles autochtones et on ne sait toujours pas combien ont disparu, y compris quand on prend un territoire en particulier, qui est cette route au bord de laquelle régulièrement on aperçoit des robes rouges. C'est Radio-Canada qui le raconte dans un reportage récemment, des robes rouges le long de cette autoroute qui sont clouées à des poteaux en bordure de la chaussée pour rappeler ces jeunes femmes qui ont disparu, des photos, des pierres tombales, des messages qui promettent de grosses sommes d'argent pour tout indice. Et néanmoins, on n'arrive pas à établir de chiffres.
Oui. Il faut rappeler que ces disparitions non élucidées, en fait, courent depuis les années 1970. Donc, il y a aussi le temps qui joue un petit peu contre, finalement, cette recherche. Et les organisations autochtones, en fait, pointent une sous-estimation systémique. C'est-à-dire que ça ferait partie aussi des violences qui sont perpétrées par les institutions canadiennes qui sous-évaluent un petit peu, si vous voulez, qui dévaluent les vies autochtones.
Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir... Et puis des enquêtes ne sont pas toujours diligentées. Il y a plein de problèmes que posent, et c'est d'ailleurs le cas également aux États-Unis. Les femmes autochtones dénoncent le même désintérêt de la police pour leur cas. On en parlera tout à l'heure en focus avec Sabrina Van Tassel. Alors, au niveau fédéral, après avoir mis en place d'abord une commission Vérité et Réconciliation, c'était de 2008 à 2015, pour documenter à la fois l'histoire et les effets du système des pensionnats pour autochtones sur les enfants et leurs familles, le gouvernement canadien lançait en 2016 cette enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. 5 commissaires étaient désignés pour enquêter, dont la sénatrice INU, Michèle Audette.
C'est un mandat qui ordonne aux 5 commissaires d'examiner toutes les formes de violence, toutes les causes systémiques et les origines, pourquoi on se retrouve vulnérable, pourquoi il y a tant de disparitions et d'assassinats ici au Canada. Et en plus, trouver une façon d'honorer nos sœurs volées, donc de proposer des exemples, des recommandations. Donc c'est immense, ambitieux, mais en même temps, je pense que c'était de permettre au Canada de dire on va aller fouiller puis gratter là, les origines. Alors c'était ça le mandat et aujourd'hui ben on voit un résultat qui va je pense créer pas juste un chapitre mais plusieurs chapitres ici au Canada en matière de droits autochtones, droits canadiens et surtout pour les femmes autochtones.
Alors quel chapitre cette commission a-t-elle ouvert et le rapport rendu 3 ans plus tard en 2019 sur la question? D'abord dans quelle mesure cette enquête a-t-elle donné la parole aux premières concernées, les femmes autochtones? Qui veut répondre à cette question en premier, Adeline Vasquez-Parra?
Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu des témoignages de plus de 1400 personnes hein, qui ont été enregistrées à travers toutes les provinces, et puis des experts, hein, il n'y a pas eu que des femmes autochtones. Je pense que ça a quand même beaucoup contribué, et puis la médiatisation également de cette commission d'enquête a beaucoup contribué à valoriser hein, cette parole autochtone et finalement à réaliser comme un examen de conscience aussi pour les citoyens canadiens qui n'avaient pas toujours connaissance ou qui n'avaient pas toujours conscience de la violence qui était perpétrée envers ces femmes.
Alors, à quelles recommandations ce rapport a-t-il conclu? Et ces recommandations ont-elles été suivies? Si vous voulez bien répondre, et puis je poserai la question à Mylène Jacou.
Alors, la recommandation principale de l'ENFADA, c'était la mise en œuvre...
L'ENFADA, c'est le nom de la commission.
Oui, voilà, tout à fait. Hein, l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Et en fait, la recommandation principale était un plan d'action national qui était recommandé donc à tous les niveaux de gouvernement, gouvernement fédéral, provincial, territorial, autochtone. Et ce plan devait veiller à ce qu'il y ait un accès équitable aux droits de base, l'emploi, le logement, l'éducation, les soins de santé, et que ces droits soient reconnus comme moyens en fait fondamentaux de protéger les droits des autochtones et les droits de la personne. Alors ça a été quand même critiqué parce que, alors même s'il y a eu une voie fédérale hein, qui a été réalisée, c'est-à-dire qu'il y a eu un plan au niveau fédéral, des organisations autochtones ont pointé du doigt une vision un peu parcellaire et peu efficace de la façon dont étaient mis en place ces recommandations, et elles ont aussi pointé du doigt le fait que beaucoup de recommandations n'étaient pas mises en place. Et donc, je pense que dans certains cas, les organisations étaient un peu déçues finalement de la façon dont se déroulaient les différentes propositions hein, de changement hein, de la société canadienne vis-à-vis de ces questions.
Mylène Jacou, est-ce que le code criminel, par exemple, en a été modifié? Vous parliez tout à l'heure de la distinction de l'attention particulière qu'il faut porter aussi aux auteurs de violences qui, quand ils sont autochtones, sont eux-mêmes confrontés en tant qu'hommes à des questions différentes de celles des hommes non autochtones au Canada. Est-ce que le fait que ce soit donc des hommes autochtones la plupart du temps qui soient les auteurs de ces violences sur leurs compagnes, entre autres, ou des femmes de leur famille, est-ce que ça influe la façon dont ils doivent, d'après cette commission, être sanctionnés, suivis, et pour les plus jeunes, éduqués, sensibilisés?
Oui, alors un petit détour quand même pour répondre à cette question, parce que je donnerais un autre son de cloche que Adeline par rapport à la commission, qui a effectivement, j'acquiesce tout à fait à ce qu'elle mentionne, ça a permis de visibiliser la violence faite aux femmes, mais vous voyez sur le terrain, moi j'ai pu noter un écart entre la parole des femmes dans certaines communautés à l'égard de cette commission, qui ne se reconnaissait pas si bien que ça dans la façon dont l'enquête était menée et la façon dont on construisait les revendications et les recommandations, notamment un peu comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes qui me disaient « ben cette commission a tendance à vouloir apporter une réponse qui divise » la prise en charge entre hommes et femmes, et on se reconnaît pas là-dedans. Une des conséquences que ça a eu, c'est ça a mis une pression chez le législateur qui a introduit des articles dans le code criminel pour que les tribunaux accordent une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsque des infractions sont commises contre des personnes vulnérables, dont les femmes autochtones. Donc maintenant, il y a un article du code criminel à cet effet qui est interprété en fait par les juges pour une demande de renforcement en fait de l'incarcération, etc. Donc ça, c'est une conséquence directe des recommandations faites par l'ENFADA, donc la commission, qui rentre un peu en tension et en contradiction avec une des réformes majeures du code criminel qui, en 1996, confirmée par un arrêt de la jurisprudence en 99, recommandait aux juges, pour essayer de neutraliser le plus possible les effets de l'incarcération qui viennent contribuer à une forme de discrimination systémique, de mettre en place des pratiques sentencielles adaptées, différentielles, de manière à éviter l'incarcération et trouver des alternatives, et d'ailleurs des alternatives qui viennent reconnaître d'une certaine façon les ordres juridiques autochtones et notamment leur vision d'une justice plus inclusive, d'une justice plus réparatrice, etc. Parce que donc, aujourd'hui, c'est une réforme majeure en 99, on va dire, mais l'ENFADA a introduit en fait un recul par rapport à ça. Alors moi, je dirais qu'il y a une tension un petit peu qui se dessine sur les réponses à apporter à l'égard de la violence envers les femmes, et je vous dirais qu'il y a une tension entre certains lobbies qui ont été représentés par cette commission et des femmes qui sont plus sur le terrain dans les communautés ou bien en milieu urbain, mais qui sont plus dans l'intervention.
Quand vous parlez alors de lobbies, vous parlez de quoi, pardon consensus. Excusez-moi, vous parlez de quel lobby?
Je parle des lobbies qui ont été représentés, notamment la commission, par exemple le Michel Audette, qui est maintenant sénatrice, qui a beaucoup été qui a beaucoup mené ces luttes-là pour que la violence envers les femmes soit prise au sérieux. Et voilà, je pense que de prendre au sérieux la violence des femmes envers les femmes autochtones, c'est très important, mais le problème, c'est dans la façon d'y répondre. Et là, je pense qu'il y a des tensions au sein même des communautés autochtones et parfois un écart entre certaines élites autochtones et les gens qui sont sur le terrain et dans les communautés.
Est-ce qu'à ce sujet, Lynn Vasquez-Parra, vous souhaitez ajouter quelque chose? C'est intéressant que vous ayez des nuances dans la façon dont vous approchez cette question-là.
Oui, je dirais, de toute façon, il est clairement, on parle pas des mêmes communautés, en fait, et on parle pas des mêmes nations. Il faut bien voir que quand on parle du milieu autochtone, il est pas monolithique. Je pense qu'on a un petit peu cette tendance, surtout depuis l'Europe et depuis l'extérieur, à voir toutes ces communautés de façon un peu monolithique. Mais effectivement, il y a des différences culturelles, des différences de pratiques et des différences effectivement dans la compréhension de la violence et en particulier de la violence envers les femmes.
Je pense qu'il est important que la ministre des Affaires autochtones, le procureur général et le premier ministre réalisent qu'ils tiennent un double discours et sont incohérents. Ils viennent à une veillée commémorative en affirmant être très préoccupés par les femmes disparues et assassinées à travers le Canada. Mais ils approuvent ensuite des projets qui auront un impact direct sur ma vie ici, ma vie en tant qu'autochtone, en tant que femme autochtone. Des projets qui porteront atteinte à ma sécurité, celle de mes enfants et celle de mes amis. J'aimerais leur dire, venez au centre de ressources pour les femmes et voyez les femmes victimes de violences dans la communauté. Il faut qu'ils comprennent que leurs décisions ont un impact réel sur des vies humaines. Je ne vois pas comment un changement peut se produire s'ils ne sont pas prêts à réaliser ça.
Les projets qui affectent ma vie au quotidien, dit cette militante pour la cause des femmes autochtones, Connie Gray-Hayes, qui a perdu 15 proches, cousines, tantes, amies, toutes des femmes disparues ou assassinées dans son entourage. Elle était interrogée par Amnesty International. Ces projets dont elle parle, ce sont entre autres les projets extractiviste que le Canada, l'État fédéral, malgré toute sa bonne volonté dans les discours à protéger les droits des femmes autochtones, eh bien continue à mener dans tout le pays au nom de l'économie. On avait consacré toute une série au Canada lors des dernières élections avec un épisode entier sur ces faux-semblants en fait du Canada sur la question de l'extractivisme. D'ailleurs, à ce sujet, peut-être un mot, est-ce que les mouvements féministes autochtones rejoignent nécessairement ceux qui luttent contre les grands projets miniers au Canada, en particulier sur les territoires des communautés, Mylène Jacou, voire ça n'a même pas de sens de les considérer à part l'une de l'autre, ces deux luttes-là?
Non, tout à fait. Il y a des convergences et c'est un peu ça que je dirais. Je crois que tous ces mouvements de lutte féministe, mouvement écologiste également convergent vers tiens, par rapport aux femmes, il y a une violence sur le corps, mais il y a une violence sur le territoire, l'appropriation, elle se décline en de multiples facettes et en ça, je pense que les Autochtones ont une vision peut-être beaucoup plus holistique des luttes à mener. Nous, on a peut-être tendance dans notre conception occidentale à sectoriser, à diviser, alors que les Autochtones ont tendance à vouloir embrasser une lutte qui est beaucoup plus générale et qui englobe toutes les facettes de leur vie. Ça va du corps individuel au corps social et territorial d'une certaine façon.
Alors les États face aux demandes de protection des femmes, c'est le thème de notre série cette semaine. Et Adeline Vasquez-Para, il se trouve que vous avez en particulier travaillé sur la façon dont certaines provinces au Canada et en particulier le Québec travaillent sur les questions autochtones. Canada, État fédéral comme le Mexique ou l'Allemagne dont on a parlé cette semaine. Outre ce qui est censé être garanti par l'État fédéral lui-même, est-ce que régionalement, toutes les provinces en sont au même point dans la protection qu'ils assurent aux peuples autochtones et en particulier à leurs femmes, en ayant en tête ce que vous nous avez dit tout à l'heure, à savoir que toutes les communautés, évidemment, ne sont pas monolithiques et toutes n'ont pas le même rapport à l'État fédéral?
Tout à fait. Et il faut voir aussi que cette répartition des populations autochtones n'est pas la même entre l'Est et l'Ouest. Il n'y a pas le même nombre de réserves. Les prairies, les provinces de l'Ouest ont beaucoup plus de réserves. Il n'y a que 30 réserves dans l'ensemble du Québec contre 238 au Manitoba, par exemple, ou 316 en Colombie-Britannique. Donc on n'a pas du tout les mêmes répartitions et la même façon, en fait, d'investir le territoire selon les provinces. Il faut rappeler, comme l'a bien dit Mylène Jacou, que de 2016 à 2019, le Québec a mis en place sa propre commission d'enquête sur les relations entre autochtones et certains services publics. Et ce, à la suite de ces événements à Val-d'Or, où des femmes autochtones avaient accusé des policiers de la Sûreté du Québec d'agressions sexuelles. Donc le Québec a essayé vraiment de prendre à bras-le-corps cette problématique des relations des populations autochtones avec notamment les services de police et les services en santé. Et cette commission a formulé des recommandations propres au Québec pour pouvoir mieux répondre aux pratiques violentes au sein des institutions.
C'est toutes ces enquêtes dont on a parlé, enquêtes sur ces femmes et filles autochtones disparues et assassinées, avaient été lancées en 2016 dans la foulée de l'élection de Justin Trudeau, qui à l'époque marquait une rupture, disait-on, par rapport à son prédécesseur Stephen Harper, lequel considérait les violences faites aux femmes autochtones et leur disparition comme des affaires ponctuelles. Le Canada a aujourd'hui un nouveau Premier ministre, depuis le mois d'avril déjà, Marc Carney, dont les journaux, peut-être en quelques mots, Mylène Jacou, ont révélé que depuis son arrivée au pouvoir, il n'a pas prononcé un mot sur l'égalité des sexes ou des genres. Il s'est plutôt entouré d'hommes blancs, voilà pour l'écume, entre guillemets, parce que, bon, même si on est déjà à plusieurs mois de son élection, en tout cas, est-ce qu'il a déjà rencontré des représentants des peuples autochtones? Est-ce qu'il a promis qu'il continuerait à suivre les évolutions de la mise en place des promesses formulées dans les rapports officiels?
Ouais, c'est assez faible et bon, il y a quand même une ministre des services sociaux autochtones. Il y a quelques personnes autochtones qui sont rentrées dans son gouvernement, mais moi j'avais envie de renchérir là-dessus. Je pense que il y a eu une époque pas si lointaine où il y avait effectivement une volonté politique de corriger ces iniquités-là et de tenir compte des enjeux autochtones. Mais là, moi, je prédis qu'on va être dans un recul. Vous savez, le Québec, quand on a un gouvernement québécois qui est assez à droite et qui ne reconnaît pas encore aujourd'hui l'existence de la discrimination systémique, moi, je pense qu'effectivement, le Québec, par rapport à d'autres provinces, est très en retard par rapport à ça. Et je sens quand même un recul actuellement avec la montée d'un nationalisme plus identitaire avec des enjeux économiques. Donc les enjeux économiques ont l'air de prendre le pas sur les questions autochtones. Et moi, je prédis un recul par rapport à ça.
Merci d'avoir été avec nous pour en parler. Mylène Jacou, professeure à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, et Adeline Vasquez-Parra, historienne maîtresse de conférences en civilisation américaine à l'Université Lumière Lyon 2, le laboratoire Triangle. Merci beaucoup. On se quitte avant de parler des femmes autochtones aux États-Unis sur la voix d'une chanteuse originaire de Winnipeg au Manitoba, Iskwe.
Lay me down now, lay me to the ground, lay me down now, lay me down in the shade.
Iskwe, chanteuse de Winnipeg au Manitoba, en hommage aux femmes disparues et assassinées au Canada. Sa chanson s'appelle Nobody Knows, personne ne sait. Personne ne sait pourquoi une femme autochtone a disparu, personne ne sait où elle est, personne ne sait qui l'a tuée ou qui l'a fait disparaître. C'est la double peine des femmes autochtones, le thème de notre dernier épisode sur les États sommés d'agir face aux violences faites aux femmes. Aux États-Unis comme au Canada, les femmes autochtones sont particulièrement exposées aux violences, mais relativement ignorées des autorités et des services de police.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Chaque année aux États-Unis, ce sont 5000 femmes autochtones qui disparaissent des réserves. Des centaines sont assassinées, 3 sur 5 sont violées. Et dans certaines réserves, toutes, sans en oublier une seule, ont subi des violences sexuelles. Bonjour Sabrina Van Tassel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste et réalisatrice, autrice du documentaire Les Disparus sur Canal+, diffusé cette année, qui raconte le calvaire d'une sororie autochtone, des sœurs dans la recherche d'une des leurs, Mary L. Davis, qui a été enlevée. Depuis la diffusion de votre documentaire, ces sœurs ont d'ailleurs eu une triste nouvelle.
Oui, on a retrouvé le corps de Mary-Ellen Johnson Davis et la tribu a payé pour l'analyse ADN. Mmh. Et on a pu savoir que c'était elle.
On a pu le confondre, en tout cas s'assurer que ces ossements étaient les siens. Est-ce que l'endroit où ils ont été retrouvés permet de comprendre ce qui lui est arrivé ?
Pour l'instant, on ne dit rien ni aux sœurs ni à personne. Ça fait 3 ans que ça dure. Et c'est bien ça le problème, en fait. C'est que si ces femmes n'étaient pas autochtones, si ces femmes étaient des Américaines, on va dire, blanches aux yeux bleus, elles auraient évidemment eu une réponse. En tout cas, elles auraient quelqu'un à la police et au sein du FBI avec qui elles seraient en contact et qui leur donnerait des éléments de réponse. Et là, elles n'ont rien.
C'est exactement ce qu'elles vous disent tout au long de ce documentaire.
Quand c'est arrivé, on a dit, ces choses-là arrivent, voilà tout. N'en faisons pas trop. On savait qu'il n'y aurait pas de suite. On n'avait pas notre propre police. Et pour la police, la soi-disant police, on n'existe pas, nous les femmes. Il était inutile d'aller porter plainte. Ils auraient dit, elle l'a mérité. Tu sais bien comment ils font.
Ça me dépasse cette violence, cette culture du viol. Pourquoi ? Pourquoi cibler
des Amérindiennes ?
Oui, pourquoi ? Pourquoi nous systématiquement ?
Pour moi, C'est le pouvoir.
Extrait de votre documentaire Sabrina Van Tassel, Les Disparus. Comment ces sœurs ont-elles mené l'enquête de leur côté avec leurs propres moyens? Qui étaient leurs interlocuteurs?
On a vraiment commencé par le début parce qu'en fait, elles ne savaient absolument rien. Donc je les ai accompagnées, c'est pour ça que je dis on a été sur la route où Marie-Hélène Johnson avait disparu. On a enquêté du côté de son mari qui a changé d'état quand même et qui est parti avec tout l'argent qu'elle avait. On a cherché à savoir d'où elle partait ce matin-là. On a été nous-mêmes, on va dire, frappés aux portes. Et moi, je les ai suivis. C'était ça, quelque part, évidemment, je pense qu'elle ne l'aurait peut-être pas fait comme ça si la caméra n'était pas là et qu'on n'était pas avec elle. On les a vraiment accompagnées à le faire. Mais moi, j'ai vu, de mes yeux vus, à quel point elles étaient démunies, à quel point elles ne savaient rien du tout, et où vraiment on recommençait depuis le début, quoi. C'était vraiment très choquant pour moi.
Le FBI est censé pouvoir intervenir dans les réserves, pouvoir enquêter. Il ne l'a manifestement pas fait. Pourquoi? C'est un manque d'intérêt, c'est un manque de moyens, un manque d'effectifs.
C'est beaucoup de choses, c'est toutes ces choses-là réunies, en fait. Le FBI, ça n'est pas fait pour ça. Le FBI, c'est fait pour des grosses enquêtes entre États, pour des gros des problèmes de terrorisme, on va dire, national ou international. Et là, pour le coup, ils n'ont pas les effectifs pour aller enquêter sur des disparitions. À l'époque, Marie-Hélène n'était que disparue, on n'avait pas retrouvé son corps. Donc en fait, on ne pouvait pas savoir si c'était un homicide ou pas. Et c'était exactement ce qu'ils disent. Donc ils n'ont pas les effectifs. Normalement, ça serait à la police avoisinante.
Locale. Oui.
Voilà, la police locale. Le problème est que la police amérindienne, dans les réserves, n'a pas le droit d'interroger les non-amérindiens, n'a pas le droit de faire quoi que ce soit avec les membres qui ne sont pas autochtones.
La police tribale qui est dans les réserves
exactement,
n'a pas ce droit-là.
N'a pas le droit. Et les non-amérindiens le savent. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont dans les réserves commettre des délits.
Donc c'est cet imbroglio légal notamment qui fait qu'en fait personne ne protège voilà. Ces femmes. Est-ce qu'il y a des avocats? Est-ce que les tribus sont bien défendues par des avocats?
Oui, mais le problème, en fait, ce problème de loi-là, en fait, bloque tout. Elles peuvent être défendues jusqu'à demain matin. Si il est dit que c'était au FBI d'enquêter dans le cas d'une disparition inquiétante ou d'un viol, et non à la police limitrophe, voilà, c'est comme ça. Et donc, le problème, c'est qu'on n'a pas laissé, en fait, à la police tribale le droit de faire sa propre enquête quand il s'agit de non-amérindiens. Et ça, c'est vraiment catastrophique. Ça veut dire, ça donne un signal qu'effectivement, ces femmes ne seront pas cherchées et ces meurtres ne seront pas investigués.
Il y a des avocats qui aident aujourd'hui gratuitement les familles, mais qui sont souvent démunis, ils n'ont pas de contact notamment avec les autorités. C'est très difficile pour eux de travailler. Ils doivent passer par ailleurs le barreau de la loi tribale et celui de l'État où ils pratiquent. Qu'est-ce
exactement.
Que c'est le barreau de la loi tribale, en l'occurrence?
Parce que comme il y a le barreau de New York ou le barreau de Los Angeles, il y a le barreau de la loi tribale. Et donc ils doivent le passer et qui explique exactement qui sont les personnes qui auront le droit ou pas d'investiguer. Ils n'ont pas le droit de le faire eux-mêmes. Ça, c'est une décision de la Cour suprême des États-Unis. Les autochtones n'ont pas le droit de le faire eux-mêmes.
Sabrina Van Tassel, de tout ce qui a pu être dit précédemment par nos invités sur les femmes autochtones au Canada, sur leurs non-droits, leurs difficultés, mais aussi leur lutte, est-ce que vous avez l'impression que ce sont exactement les mêmes questions qui se posent aux femmes autochtones aux États-Unis, dont on parle moins, avec toutes les nuances, bien sûr, qu'il y a entre elles? Il ne s'agit pas de tout mélanger, mais en tout cas, sur l'histoire, une histoire coloniale, sur la difficulté pour un État à reconnaître ses torts, est-ce que c'est la même histoire?
Mais absolument, absolument. Et on ne mélange rien en disant ça. Il y a eu les mêmes pensionnats aux États-Unis. D'ailleurs, le premier pensionnat était aux États-Unis avant d'être au Canada. Donc voilà. Et toutes les problématiques qu'on retrouve au Canada, on les trouve aux États-Unis. Effectivement, il y a des nuances dans les lois qui font que, mais la problématique est exactement la même. Et moi, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce film. C'est que on dit toujours que c'est un problème canadien, et même aux États-Unis, on dit ça. Ah oui, c'est un problème canadien. Ah oui, mais on n'a pas ça ici. Si, vous avez ça ici. Aux États-Unis, on a exactement la même chose que ce qui se passe au Canada et dans toutes les tribus, avec exactement les mêmes statistiques. Et ça, c'est un vrai problème. La problématique est très claire. Pour le cas canadien comme pour le cas américain, les prédateurs savent très bien qu'ils peuvent aller abuser des femmes dans les réserves amérindiennes et qu'ils ne seront pas poursuivis.
Aujourd'hui, la communauté amérindienne par rapport à la population états-unienne dans son ensemble, elle représente quoi? Il y a 574 nations, 10 millions d'Amérindiens, et néanmoins, parce que 10 millions, ce n'est pas peu, c'est même beaucoup plus qu'à une certaine époque, malgré l'appropriation des terres, les épidémies, malgré l'oppression, la colonisation, l'indianité a survécu, comme dit l'ethno-historienne Joël Rostowski, néanmoins, il ne pèse pas, donc dans la façon dont on légifère, dans la façon dont on rend justice.
On a une statistique. Les femmes amérindiennes sont 10 fois plus assassinées que n'importe quelle autre femme aux États-Unis. Et on parle de la, voilà, des femmes noires, des femmes hispaniques réunies. Donc, je pense que ça en dit quand même assez long. Dans certaines tribus, moi, où j'ai été, 100% des femmes avaient été violées. C'est juste catastrophique. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas, même s'ils sont plus nombreux qu'avant, ils ne sont toujours pas assez nombreux, ne font pas suffisamment de bruit, et cette problématique n'est pas suffisamment connue. Moi, j'étais vraiment très étonnée quand on a sorti mon film aux États-Unis, à quel point les gens étaient choqués, les Américains étaient choqués de découvrir cette histoire, de découvrir leur histoire. Et d'ailleurs, il y a un an, Joe Biden demandait pardon à la population autochtone pour les pensionnats, et c'est passé dans une espèce d'indifférence généralisée. Les Américains n'ont aucune idée de ce qui s'est passé dans les pensionnats amérindiens et n'ont aucune idée du sort des femmes dans les réserves.
Et les fâcheux disaient à l'époque que les excuses présentées par Joe Biden pour ces atrocités commises dans les pensionnats, eh bien, c'était en pleine campagne électorale, alors que les intentions de vote dans l'Arizona étaient très serrées et que tout ça a été peut-être un petit peu calculé. On n'en saura rien quelles étaient les intentions. En tout cas, il avait nommé des femmes autochtones, y compris au gouvernement, à la tête du ministère de l'Intérieur, à la tête du département du Trésor. Est-ce que des choses ont bougé à ce moment-là pour les communautés autochtones et pour les femmes en particulier? Un petit peu quand même?
Un petit peu. C'est vrai que le fait d'avoir Deb Haaland, qui était la secrétaire à l'intérieur de Joe Biden, qui était la première femme autochtone élue aux États-Unis, ça a été un vrai symbole. Mais ce qui bouge, c'est surtout la représentation. Le fait que de plus en plus, on ait des actrices comme Lily Gladstone, qui a reçu un Golden Globe pour le film de Scorsese, ou de plus en plus dans les séries où on parle justement de cette problématique, ça contribue à faire connaître le problème aux Américains.
Et des musées aussi qui se créent partout pour rappeler que l'indianité est partout aux États-Unis. Et il se trouve qu'on est aujourd'hui aux États-Unis, c'est Thanksgiving,
oui.
Et on a oublié que c'est à l'origine une fête qui commémore la célébration en 1621 d'une grande récolte des pères pèlerins évangéliques dont les Wampanoags avaient aidé à traverser la baie de l'Hudson en échange d'armes, et qu'ils avaient ensuite initié à l'agriculture indienne. Et cette année-là, la récolte avait été belle, on l'avait célébrée. Et Thanksgiving, c'est ça, et c'est aujourd'hui. Merci beaucoup, Sabrina Van Tassel, d'avoir été avec nous. Votre documentaire Les Disparus est toujours disponible sur Canal+. Vous êtes journaliste et réalisatrice. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
L'incendie meurtrier de Hong Kong est désormais maîtrisé, Catherine, mais il a causé la mort d'au moins 55 personnes.
24 heures après que des flammes oranges ont commencé à dévorer un complexe résidentiel, déchirant la nuit ensuite à Hong Kong, comme le montre le quotidien South China Morning Post. Des milliers de personnes ont dû être évacuées dans le nord de la ville, précise un reportage télévisé de la RTHK. Derrière les immenses panaches de fumée grisâtre qui continuent à polluer le ciel de Hong Kong ce matin, c'est toute une vie à la verticale, pourrait-on dire, qui se dévoile sous nos yeux, à la télévision, sur la RTHK et dans les pages du South China Morning Post, qui rappelle que le complexe immobilier Wang Fuk Court, qui vient de s'embraser, comptait 7 gratte-ciels, des structures de 31 étages, une hauteur que peinent à atteindre aujourd'hui les lances à incendie, note la BBC. Les immeubles de Hong Kong sont parmi les plus hauts du monde, les plus densément peuplés également, si bien que le bilan risque de s'alourdir, craignent les autorités. Le complexe en feu abritait plus de 4000 personnes. Des familles désespérées recherchent leurs proches, raconte le South China Morning Post, et la polémique enfle sur la violation de normes de construction et de rénovation. Pourquoi n'y a-t-il pas d'alarme incendie? C'est pas possible, ridicule, le bas de l'immeuble prend feu. Il n'y a pas d'alarme dans ce bâtiment, s'exclament des passants qui semblent avoir capturé en vidéo le début de l'incendie dans ce complexe immobilier situé dans le district de Taipo, dans le nord de Hong Kong. Mais que font les ouvriers du bâtiment, demandent ces passants qui filment les gratte-ciels en flammes, montre le South China Morning Post. Et il y a le feu, crie-t-il encore pour tenter de donner l'alerte. En vain, les passants ne peuvent que constater l'embrasement en quelques minutes seulement des 7 immeubles. C'est fini, disent-ils impuissants face à l'échafaudage en bambou qui s'écroule, part en fumée sous leurs yeux. Le feu se propage aux immeubles voisins. Ces passants expliquent même ressentir l'effet de la chaleur alors qu'ils se tiennent à plusieurs mètres de distance, rapporte le South China Morning Post, et de se demander ce que peuvent faire les pompiers. Plus d'un millier de soldats du feu et des policiers ont été déployés pour maîtriser l'incendie et secourir les habitants. Dans le South China Morning Post encore, une résidente raconte qu'elle a été réveillée par des craquements et par le bruit des flammes. Elle a elle-même appelé la sécurité, qui lui a alors confirmé qu'un incendie ravageait son immeuble et qu'elle devait évacuer. Elle a pu le faire rapidement, sans cela, elle serait morte, dit-elle encore choquée au South China Morning Post.
C'est donc la stupeur à Hong Kong et déjà l'heure des accusations.
Sur le déclenchement ou non d'alerte incendie, sur les échafaudages en bambou utilisés pour ce complexe en rénovation depuis l'an dernier, ils ont facilité la propagation des flammes, souligne le South China Morning Post, la BBC et le New York Times. Et puis, les policiers ont découvert que des plaques de polystyrène hautement inflammable, recouvrait des fenêtres à chaque étage des immeubles, ce qui a contribué à l'embrasement rapide des appartements, tout comme des matériaux, des bâches plastiques notamment, utilisées à l'extérieur des bâtiments. Ils n'étaient pas conformes aux normes de sécurité incendie, indique le South China Morning Post. Le quotidien de Hong Kong précise que 3 personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une enquête pour homicide involontaire. Il s'agit des responsables de l'entreprise chargée des travaux de rénovation. Le chef de l'exécutif de Hong Kong, John Lee, a ordonné des inspections immédiates de tous les complexes résidentiels de la ville où d'importants travaux sont en cours, ajoute le South China Morning Post. Maîtriser l'incendie, secourir les personnes peut-être encore piégées par les flammes et déterminer les responsabilités de cette catastrophe sont les priorités du gouvernement, rapporte la RTHK. Suspension donc de la campagne législative pour les élections qui doivent se tenir le 7 décembre prochain à Hong Kong. Ces législatives seront peut-être reportées, annonce la RTHK et Hong Kong Free Press.
Le processus électoral a également été suspendu en Guinée-Bissau, mais on l'imagine bien pour une toute autre raison.
Des militaires ont pris le contrôle total du pays. Ils l'ont annoncé hier, rapporte la Televisao da Guinée-Bissau. Le président sortant, Ambalo, a été arrêté ainsi que des chefs de l'opposition, alors que ce petit pays côtier d'Afrique de l'Ouest attendait l'annonce aujourd'hui des résultats de la présidentielle et des législatives qui se sont tenues ce week-end, rappelle Publico. La Guinée-Bissau, enclavée entre le Sénégal et la Guinée-Conakry, plaque tournante du trafic de drogue, les militaires y exercent une influence influence considérable, rappelle la BBC depuis l'indépendance du Portugal en 1974, et ils disent aujourd'hui avoir agi pour contrecarrer un complot ourdi par des politiciens et des trafiquants de drogue pour déstabiliser la Guinée-Bissau. Ils ont annoncé la fermeture des frontières, imposé un couvre-feu nocturne, détaille Publico et la BBC. Un putsch dénoncé par l'Union africaine, note le Djeli. Un nouveau coup d'État aussi en Afrique de l'Ouest, qui en a déjà connu toute une série depuis 2020, notamment au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en Guinée-Conakry.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Demain dans Culture Monde, vous retrouverez Mélanie Chalandon et ses invités. D'abord pour le retour de terrain, le journaliste du Figaro Enguerrand Armanet, de retour de la ville de Zhengzhou en Chine. Il a visité une usine de production automobile BYD au cœur de l'essor industriel chinois, suivi d'une table ronde consacrée aux tensions entre Japon et Chine et la remilitarisation du Japon, avec Philippe Pelletier et Jean-Yves Collin. Dans un instant, les Midis de Culture.